avez de la chance, vous avez de la chance parce que Paul Ariès est également un taciturne. Donc ça va aller très très vite là encore. En tout cas, je trouve que les deux premières interventions cet après-midi allaient dans le sens de l'allègement du fardeau. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. C'est vrai que tout ça donne une certaine allégresse. Paul Ariès, lui, va nous expliquer pourquoi on nous prend pour des fous. Je suis sûre que ça va être très bien aussi.
Alors aujourd'hui, j'ai des problèmes de décroissance vocale. Donc, je vous demande d'excuser ma voix. Donc, les organisateurs m'ont demandé de traiter des difficultés que nous rencontrons pour convaincre. J'aurais tendance à dire pour convaincre déjà que nous ne sommes pas fous, ou du moins beaucoup moins fous que les champions de la croissance économique. Nous savons globalement que le monde va mal. Nous savons à peu près comment faire individuellement pour décroître. Et j'aurais envie d'ajouter pour décroître dans le plaisir, dans le bonheur. Mais nous ne savons pas, ou très peu, comment décroître collectivement. Nous connaissons certaines bonnes solutions technologiques, le bon type d'ampoule, par exemple. Nous connaissons les bonnes solutions en tant que consommateurs, voire en tant que consomme-acteurs. Nous avons plein d'excellents arguments scientifiques. Bref, nous pataugeons souvent, je dirais, dans une idéologie techno-scientifique qui est celle des bons consommateurs. C'est vrai, le discours de la décroissance passe mal. Je dirais qu'il passe mal aussi bien dans les pays riches que dans les pays pauvres. Il passe mal auprès des nantis de la planète, mais également auprès des exploités de cette planète. La pensée de la décroissance semble prendre le monde de vertige dès qu'on la prononce. On est donc légitimé à se demander si cette pensée de la décroissance est ou n'est pas une maladie mentale. Notre discours provoque au mieux l'incompréhension ou l'ironie. Serions-nous partisans du retour à l'âge de pierre ou à l'économie de guerre ? Notre discours serait, selon certains, celui d'enfants repus. Tout cela ne serait pas si grave, car chaque époque aurait besoin de ses doux rêveurs, et l'adolescence des enfants gâtés emprunte, on le sait, souvent des chemins tortueux. Mais notre discours provoque également souvent un soupçon de maladie mentale. Nous aimerions-nous si peu, ou aimerions-nous si peu notre prochain, que finalement nous serions prêts à décroître jusqu'à disparaître? Ne serions-nous pas également des pisse-froids ou des durs à jouir? Je dirais que les pronostics sont ouverts, schizophrènes, misanthropes. Les rares échos favorables que l'on peut rencontrer dans la grande presse sont souvent pires que les rejets. Je crois que le terme de décroissance est suffisamment éloigné de la pensée commune pour autoriser bien des contorsions et pour fonder souvent l'illusion d'un accord dans le désaccord. J'ai croisé ces derniers temps trois faux frères. Le premier, c'est tout simplement l'idée que le mot d'ordre de la croissance serait une habile façon pour des individus repus, pour des nations opulentes, eh bien de se préserver, de se réserver les fruits de la croissance. Comme le développement est d'autant plus polluant que les économies sont émergentes, du moins c'est ce qu'on nous dit, eh bien il faudrait laisser le tiers-monde se passer du développement. Il faudrait lui reconnaître un droit à la différence. À nous les ports alimentaires modernes, celle du trop ou du mal manger, et à eux les ports archaïques de la malnutrition ou de la famine. Premier élément de réponse, la décroissance est un partage. C'est le partage d'un bonheur, mais d'un bonheur non conforme. Et deuxième idée que l'on rencontre dans ce que j'aurais tendance à ranger dans la catégorie de nos faux frères, c'est cette idée que ce mot d'ordre de la décroissance serait finalement simplement la traduction dans le langage moderne, donc économique, donc de la consommation, de cette vieille posture religieuse du renonçant au plaisir de la vie. Ce renonçant vivait autrefois en ermite, au fond d'une forêt où se faisait emmurer vivant, mais je dirais comme toute notre société fonctionne aujourd'hui tout entière à la frustration des beautés de la nature et de l'affaiblissement du lien humain, il ne resterait que la privation de la consommation. Nous aurions, en tant qu'abstinents, le grand mérite de prendre sur nous la mauvaise conscience des consommateurs impénitents. On pourrait dire qu'une bonne société a toujours besoin de ses abbés Pierre. Autre élément de réponse immédiatement à apporter, la solution, bien sûr, est individuelle, mais elle ne peut pas être qu'individuelle. Et puis, troisième faux frère, ce point de vue de la décroissance serait aussi, selon d'autres, une bonne entrée en matière pour banaliser la haine des humains, des pauvres, et pour provoquer ce qu'on pourrait nommer un humanicide, soit dans l'intérêt des autres espèces, soit même dans l'intérêt de notre mère Gaïa. Je dirais que là, nous ne sommes pas très loin de la pensée de Zbigniew Brzezinski, ex-conseiller du président Carter et président fondateur du club de la trilatérale. Brzezinski qui nous dit « Notre économie mondiale n'aura bientôt plus besoin que de 20% des humains. » Et question qu'il se pose, que faut-il faire des 80% restants? Et je cite, il nous dit « Il faut créer un cocktail d'alimentation suffisante et de divertissement abrutissant pour maintenir dans la bonne humeur les 80% de population frustrée de la planète. » Alors comme l'a dit François Brune, notre projet est pétri d'humanisme. Il est complètement à contre-pied de ces visions catastrophiques que l'on nous annonce. Pourquoi de telles difficultés à se faire comprendre? On sait toute l'importance du choix du vocabulaire. Je dirais que toute l'histoire des courants d'idées est affaire de mots. République ou démocratie, réforme ou révolution, nationalisme ou patriotisme, communisme ou socialisme ou social-démocratie, etc. Le discours de la décroissance souffrerait-il d'être le produit du travail de la seule négativité d'un système? Le terme le dit suffisamment, il faut décroître. Bref, on pourrait croire qu'il nous parle de la même chose, mais en moins. Je dirais que le vieux mouvement ouvrier ne rêvait pas de décapitaliser l'économie, mais de le collectiviser. Disons-le tout net, il ne s'agit nullement d'opposer un modèle fondé sur le plaisir et un modèle sacrificiel fondé sur le renoncement. Il y a autant de bonheur à renoncer à la croissance pour la décroissance que de passer de la pratique des amours tarifées à la rencontre amoureuse d'un autre sujet. Comment dire qu'il ne s'agit pas de vivre moins, mais autrement et mieux, c'est-à-dire d'entretenir un autre rapport à l'utilité, un autre rapport aux autres et à soi. La force du système est d'avoir convaincu les jeunes générations notamment, qu'il serait impossible d'une part de changer globalement le monde, mais plus grave encore peut-être, également de le penser globalement à partir d'un autre point de vue. Pourquoi ce refoulement de l'idée même de décroissance? Pourquoi ce déni de ce qui apparaît pourtant de plus en plus incontournable? Pourquoi faudrait-il poursuivre au nom du réalisme un chemin dont on sait qu'il nous conduit droit dans le mur? Qu'est-ce que notre discours remue? Qu'est-ce qu'il agite en chacun de nous qui serait finalement inacceptable? Je crois que la pensée de la décroissance remet en cause deux dogmes bien établis à droite et à gauche, mais aussi ailleurs. Déjà tout simplement celui du développement, celui de la croissance. Et puis aussi celui selon lequel il suffirait d'une autre répartition des fruits de la croissance pour que tout soit dit. Eh bien non. Je dirais que la croissance n'est pas une solution, on le sait, mais la seule répartition des fruits de la croissance n'est pas non plus toute la solution, toute la réponse. Le discours de la décroissance peine à passer, car il s'oppose non pas à des arguments rationnels, mais à des fictions, à des fantasmes. Le pire n'est pas que nos adversaires ne voudraient pas savoir, c'est que quelque chose les empêche de vouloir savoir. Nous en sommes en partie responsables dès lors que nous pensons pouvoir fonder cette belle idée sur un discours de type strictement scientifique. Nous faisons corps alors avec ce que nous entendons combattre. La science moderne, en tant qu'idéologie, repose sur l'effacement du sujet humain, c'est-à-dire sur l'effacement de la responsabilité, sur l'effacement du choix. J'aurais tendance à dire que c'est ce qu'il y a de commun entre Eichmann et les experts, par exemple dans l'affaire du sang contaminé. Ce qui est en cause, ce n'est pas leur capacité de penser, mais leur capacité de juger. Les économistes pensent bien, mais ils ne jugent pas. Le discours de la décroissance doit être un discours du jugement, c'est-à-dire un discours du choix, bref, un discours éminemment politique. Et ce n'est qu'au prix de ce retour aux politiques que nous ne serons plus orphelins d'utopie et que nous serons capables d'embrayer sur du réel. Je dirais que toute autre démarche nous enferme dans le système de pensée de nos adversaires. Elle nous empêche ce jeu nécessaire du passé composé, c'est-à-dire cette idée qu'on ne peut faire du neuf qu'avec du vieux. Et j'ai beaucoup aimé les propos de François Brun sur, je dirais, l'actualité de toutes ces vieilles devises, de tout ce savoir intemporel que se transmettaient nos anciens de génération en génération. En politique, on ne cesse jamais de s'identifier à Spartacus ou de rejouer la prise de la Bastille. Ces vieilles cartes sont certes biseautées, mais encore faut-il les tenir en main pour pouvoir tout simplement redistribuer le jeu. Le corpus politique d'antan était beaucoup plus dissensuel que celui d'aujourd'hui, sans même remonter au droit à la paresse de Paul Lafargue. Pensons au débat des années 70 sur l'an 01. Pensons également, tout simplement, dans les années 70, à la chasse au gaspillage. C'est-à-dire que l'idée qu'il fallait une certaine décroissance était beaucoup plus naturelle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Autrement dit, les partisans de la croissance n'étaient pas encore parvenus autant à naturaliser leur position idéologique. La grande force du système a été, d'une part, de faire passer pour naturel ce qui reste exceptionnel à l'échelle de l'humanité, et d'autre part, d'être parvenu à établir un lien presque insécable entre l'idéologie de la croissance individuelle et celle du développement personnel. Et ces deux éléments font que notre discours passe pour être une série de formules maléfiques destinées à faire régresser l'humanité. On nous accuse souvent d'être ringard, d'être régressif. Je crois que là-dessus, il faut être sans complexe. Ce ne sont pas les partisans de la décroissance qui sont régressifs, mais les champions de la croissance. Si on cherchait un synonyme au terme de mondialisation, de globalisation, ce serait sans doute le terme de régression qui irait le mieux. Et régression dans tous les domaines. Régression sociale, politique, culturelle et psychique. Il est donc important de s'en prendre à deux affirmations. Première affirmation, celle selon laquelle la croissance serait naturelle. Le discours de la croissance est difficile à entendre, mais je dirais comme tout exercice de rééducation est douloureux à effectuer. Il remet en cause notre myopie ethnocentrique. Toute perspective de décroissance est vécue spontanément comme une sorte d'arrachement de l'humain à sa propre humanité. La croissance serait naturelle, la décroissance serait donc contre nature. Mais cette thèse, comme l'a dit Alain Gras, ne tient pas face aux travaux des anthropologues. L'histoire de l'humanité n'est pas celle de la croissance. Elle est celle du refus de la croissance, pas celle de son impossibilité. Toutes les expériences qui ont été faites par des anthropologues dans les sociétés dites primitives qui existent encore aujourd'hui le prouvent. Prenez un groupe d'enfants dans une société dite primitive, mettez-les sur une ligne et demandez-leur de faire une course. Eh bien, vous constaterez qu'ils arrivent tous sur la même ligne. Pourquoi ? Parce que le principe de compétitivité, le principe de concurrence n'est pas naturel. Et ce principe n'a pas encore été ancré dans un certain nombre de peuples. Je dirais que la croissance, c'était l'impensable anthropologique de cette époque, tout comme la décroissance l'est aujourd'hui. Ni l'une ni l'autre ne sont naturelles. Il s'agit de choix politiques. Il s'agit de choix collectifs. Donc, si ça peut vous rassurer, la décroissance n'est pas effectivement une maladie mentale. Et deuxième élément important, la force du système a été aussi d'établir un lien entre cette idéologie de la croissance économique et celle du développement de la croissance personnelle. Les individus seraient en croissance comme les économies et ce développement devrait être dans les deux cas durable. Ce qui justifie d'un côté de polluer moins pour pouvoir polluer plus longtemps et de l'autre de se doper avec des drogues autorisées en fonctionnant sous le contrôle de son coach. J'aurais tendance à penser que les ouvrages si populaires de développement personnel font beaucoup plus pour l'enracinement des catégories mentales nécessaires au capitalisme que beaucoup d'œuvres des économistes libéraux. L'individu se pense de plus en plus comme un entrepreneur de soi et se vit sur le mode d'un capital à valoriser tant sur le plan moral que physique. L'individu moyen ne se construit plus, il ne se cultive plus, il croît, il augmente, il ajoute, il retranche. L'individu consommateur est d'abord un consommateur de soi. On a des raisons de dénoncer la publicité sexiste. Mais il faut aller jusqu'au bout de l'analyse. La femme doit être une femme objet pour pouvoir être une femme consommatrice. Et le jour où les enfants seront devenus des consommateurs comme les autres, eh bien nous aurons aussi, et nous y allons tout droit, l'enfant objet. Proposer la décroissance comme projet de société ne peut dès lors qu'être vécu comme une amputation de soi-même. Cette amputation prend la forme d'un manque à jouir en raison d'une privation de biens de consommation, mais également la forme d'un manquement à soi si on prive le consommateur de marque identitaire. C'est très intéressant de lire ses adversaires. Et quand on regarde par exemple ce que nous dit Alvin Toffler, c'est le plus grand futurologue américain, c'est lui qui a mis la dernière main au fameux rapport sur la situation des États-Unis au XXIe siècle. Et Alvin Toffler nous dit que l'humanité serait à la veille de vivre une très grande révolution. La première grande révolution serait été le passage du paléolithique au néolithique. Et la deuxième révolution qu'il nous annonce, ça serait la disparition programmée du sujet individuel, c'est-à-dire du moi freudien. Il dit, mais ça c'est fantastique. C'est fantastique parce que ça va permettre d'une part de passer de la logique de la passion, et la passion ça serait toujours dangereux, que ce soit dans le domaine religieux ou politique, puisqu'il y a des guerres, mais aussi dans le domaine sentimental, puisqu'on dit bien qu'on tombe amoureux, autrement dit il y a l'irrationnel. Donc de passer de la logique de la passion à la pure logique des intérêts. Il dit, c'est aussi très favorable parce que ça va permettre de développer le commerce des expériences de vie. Et ce commerce des expériences de vie, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui notamment à travers tout simplement, eh bien je dirais, ces marques identitaires. Toutes ces fictions dominantes ne sont ni plus justes ni plus fausses que celles du passé ou celles qui se trouvent aujourd'hui dominées. Elles correspondent seulement à la logique du système. La force du capitalisme est d'être parvenu à contourner toutes les résistances culturelles et institutionnelles dont la fonction était de canaliser les fantasmes pour les exploiter à son profit. Les couches les plus profondes du psychisme refont surface sous les traits du culte de la toute-puissance et de la foi d'un monde sans limite. Tout serait possible tout de suite. On en a, par exemple, un excellent exemple dans cette banalisation de ces fantasmes, dans la mère où le père de famille, incapable de dire non, plus de bonbons, tant qu'il y a des bonbons dans la boîte. Et je dirais que cette situation, c'est celle de notre société. Et cela indique que la place de l'impossible n'est plus inscrite dans la tête des parents et ne peut pas, bien sûr, être transmise aux enfants. Cela signifie que l'impossible n'est plus correctement symbolisé dans notre société. Le problème, c'est qu'on ne peut combattre des mythes qu'avec d'autres mythes. On ne peut combattre des fictions qu'avec d'autres fictions. Quelle peut être la mythologie dont nous avons besoin? Le discours de la décroissance doit se proposer de réconcilier l'inconciliable, c'est-à-dire le principe espérance d'Ernst Bloch et le principe responsabilité d'Hans Jonas. La société de croissance ne se pose que des comment. Comment faire pour produire et consommer toujours plus? Le comment est beaucoup plus naturel que le pourquoi dans une société qui fonctionne à l'image d'une grande machine. Le discours de la décroissance doit réintroduire la question du pourquoi, qui n'a qu'une façon de se poser celle du pour qui. Il faut réinstituer de l'altérité, qu'il s'agisse de celle des autres humains, des générations futures ou des autres espèces. La mondialisation des problèmes peut aider à opposer cette figure majeure de l'altérité à la toute-puissance. Les partisans de la décroissance ne peuvent comprendre également les réactions de violence, de déni, face à leur thèse, que si l'on admet qu'il est faux de penser que notre société a tué le sacré. Il n'y a pas disparition du sacré, mais inversion du sacré et du profane. D'un côté, notre société profane ce qui était considéré comme sacré, un certain nombre de valeurs, la liberté, l'égalité, la générosité, le génome humain, le caractère non marchand du vivant. On vend du bonheur, on vend de la tendresse, on vend même de l'engagement militant à travers certains types de consommation. Et puis, parallèlement à cette profanation du sacré, on a une sacralisation du profane. La technique, l'argent, l'idéologie de la gagne, la croissance, le paraître. On vient d'introduire dans certaines universités des cours de relooking, ce qui montre effectivement où nous en sommes aujourd'hui sur le plan idéologique. Dénoncer le matérialisme de notre société, c'est important, mais ça peut être faux. Ça peut être faux si cela doit nous conduire à ne pas voir qu'il y a une religiosité du marché avec ses temples de la consommation, ses instruments de culte que sont les linéaires, les chariots, la liturgie publicitaire, les grands prêtres économistes nobilisés, le credo du pouvoir d'achat, le calendrier des soldes, etc. On comprend dès lors que prôner la décroissance soit vécue comme une véritable hérésie. C'est une hérésie puisque ne pas consommer, c'est être un traître à sa patrie. C'est ne pas payer son tribut à la société en butte au terrorisme. C'est aussi désespérer les gens en les privant de leur raison d'être. Consommer moins, d'accord, mais pour faire quoi? Et je dirais que cette question me rappelle une vieille chanson anarchiste du 19e siècle. Supprimer les patrons, d'accord, mais c'est qui fera la paye le samedi? Tarkovsky écrit dans son journal que la vie n'a heureusement pas de sens, car si elle en avait un, il serait le même pour tout le monde et nous n'aurions plus de liberté. L'absence de sens au départ autorise chacun, et nous autorise collectivement, à pouvoir donner à la vie le sens qu'on veut bien lui donner. La modernité économique et psychique n'est donc pas l'absence de sens, mais ce que Claude Roy appelle le péché de réponse, c'est-à-dire une logique où la réponse est donnée avant la question. Je rappellerai la belle formule de Woody Allen, la réponse est oui, mais quelle est la question? Nous devons être des questionneurs, nous devons bousculer, nous devons déjà questionner dans deux domaines, celui du rapport au temps et celui du rapport à l'espace. Rapport au temps tout d'abord, il est évident que le discours de la décroissance suppose, pour être entendu, je dirais entendable, de se libérer de la conception et de la pratique du temps qui est celle de notre système. Il faut rompre avec le fétichisme du temps qui fait que, alors que nous allons de plus en plus vite, nous souffrons d'un manque de temps. La décroissance est l'inverse de la néantification du passé et donc du futur. Il faut avoir une mémoire très très longue pour pouvoir voir très loin devant. Il faut considérer la désaisonnalisation, le viol de la chronobiologie, la fuite en avant dans l'obsolescence technologique ou sociale, la mode c'est ce qui se démode, comme de véritables entreprises de désespècement de l'espèce humaine. Le discours de la décroissance suppose de se décentrer face aux besoins de la machinerie, dont nous devenons de plus en plus les rouages. L'homme ne peut se réapproprier un temps à sa mesure que s'il devient lui-même la mesure de toute chose. Le temps mécanique de l'industrie ou celui virtuel de la finance ne peuvent que ravaler l'humain au rang d'homme machinal. Je crois que le succès d'expériences comme le mouvement Slow Food à partir de l'Italie font beaucoup plus pour la décroissance que beaucoup de belles paroles, en rappelant tout simplement au quotidien, à travers des rituels ordinaires, que changer la société, c'est tout à fait possible. Deuxième élément, après ce rapport au temps, c'est le rapport à l'espace. Il est évident que le discours de la décroissance véhicule une vision de l'espace qui se souvient que l'espace premier de l'homme reste encore celui de la marche à pied. L'homme doit être d'un lieu pour pouvoir aller vers les autres. Péripatos le disait déjà, on pense au rythme de ses pas. Cette idée est devenue étrange aux pieds, enfin je veux dire au cerveau de nos contemporains qui prennent peu à peu l'habitude de vivre hors sol, dans un aplatissement et une artificialisation totale de l'espace. Le discours de la décroissance repose sur une densification de l'espace, alors que le discours de la croissance repose sur un élargissement de l'espace, prélude, condition à sa banalisation marchande. La notion de relocalisation m'apparaît donc, et je crois que c'est l'un des thèmes essentiels demain, comme la seule arme permettant aujourd'hui de rompre avec la logique du système. Ce discours de la décroissance propose une conception du bonheur largement inaudible aujourd'hui pour la majorité des humains. La société parfaite dont on nous parle serait celle qui aurait réponse à tout et qui fonctionnerait à l'image d'une mère dévorante, capable d'assouvir immédiatement tous les désirs de ses enfants grâce à un sein intarissable. Ce projet de bonheur conforme est celui mis en œuvre dans les Disneyland ou les McDo, où le mot d'ordre est justement de réveiller le grand enfant qui dort en chacun. Notre projet est beaucoup plus exigeant puisqu'il impose de grandir, c'est-à-dire de devenir adulte. Ce discours de la décroissance suppose donc de rompre avec tout projet de transformer l'humain en surhomme ou tout projet visant à troquer des interdits contre des normes techniques. Nous n'avons pas de solution finale. Nous avons simplement un chemin à emprunter et à ouvrir. Ce refus de coller aux recettes de la société nous ferme la possibilité d'offrir comme compensation à l'angoisse une quelconque fuite en avant, quelle qu'elle soit. La technologie est, quoi qu'on pense, toujours réconfortante. Elle prend la place de la liberté qui, elle, fait si peur. Les humains, de plus en plus bousculés dans leur identité et leurs repères, sont prêts aujourd'hui à préférer les paroles de n'importe quel Big Mouton qui leur promet d'interdire d'être malade, d'interdire de vieillir ou de mourir en échange de l'acceptation de ces nouveaux dispositifs sécuritaires. Je dirais qu'il ne s'agit pas de penser à rebours, il ne s'agit pas d'idéaliser le passé, il s'agit tout simplement d'embrasser toute l'histoire humaine en prenant suffisamment de recul pour avoir cette capacité à se projeter loin dans le futur. Pour conclure, je voudrais insister sur le fait que nous avons toutes les chances avec nous. Déjà parce que, comme le disait Gandhi, nous gagnerons parce que nous sommes les plus faibles. Or, l'humanité n'est grande que dans le respect de ses faibles et de ses faiblesses, ce qui passe déjà, bien sûr, par le respect des vieux et des enfants. Ensuite, également parce que si nous savons parler juste, nous pouvons aider à ce basculement des représentations, à cette désaliénation. Le système tient sur trois fois rien, il tient sur un rapport de force qui repose sur un énorme mensonge. Et chacun de nous l'a déjà vérifié dans sa propre expérience. Eh bien, le basculement est difficile à accomplir, mais il peut être très rapide. Je vous remercie pour votre patience.